Il est absolument indéniable que le Seigneur que nous prions et que nous adorons est quand même un être absolument extraordinaire. Et il est extraordinaire par ce que nous pouvons regarder autour de nous, mais il est surtout extraordinaire par ce que nous avons vécu et ce que nous pouvons vivre avec lui. Parce que ce n'est pas simplement un Dieu qui est en dehors de notre réalité, de notre monde, c'est un Dieu qui s'implique dans notre vie, c'est un Dieu qui est préoccupé par notre vie de tous les jours. Et il est préoccupé par la vie de chacun d'entre nous, et il est préoccupé par la vie de notre planète, la vie de notre pays, la vie de notre Église. Alors ce matin, ce que j'aimerais faire aussi, c'est aller un peu plus loin que ce que nous avons fait ce matin pour célébrer qui Dieu est, et qui est un très très bon démarrage, mais c'est aussi pour célébrer et encore s'émerveiller de ce qu'il a fait pour nous. Et le texte, ou un des textes que je vous invite à lire ce matin pour démarrer, est tiré de l'évangile de Luc, au début de l'évangile de Luc. Et là, il nous est dit que Jésus se rendit à Nazareth et selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et là, il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et il déroula le livre et trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Vous avez peut-être grandi ou vécu dans une ville où il y avait une avenue de la libération. La France se souvient très bien de ces jours de 1945 où beaucoup de villes ont été libérées par l'armée. Et on a encore ces images noires et blanches des soldats et des gens qui étaient en liesse en se disant « Enfin, enfin, enfin on est libre ». Il y a deux textes supplémentaires que j'aimerais lire avec vous. Next, s'il vous plaît, merci. À un moment, Jésus parle avec des pharisiens et il leur dit « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Et l'apôtre Paul, lui, dans l'Épître aux Galates, dit « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme dans cette liberté. » Il semblerait que la liberté ou la libération soit un de ces sentiments qui est au fin fond du cœur de tous les hommes. Et ce n'est pas simplement quelque chose qui a été acquis il y a longtemps, mais qui semble de génération en génération, et quelle que soit notre situation, ça soit toujours ce sentiment que nous avons au fond de nous. J'aimerais être libéré d'un certain nombre de choses. J'aimerais vivre dans la liberté. Et c'est deux choses un tout petit peu différentes, cette notion de libération et cette notion de liberté. Et il est intéressant que Jésus dit, si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Et l'apôtre Paul qui lui dit, c'est pour la liberté que vous avez été libérés. Le projet de Dieu pour les hommes commence avant tout par une libération et par nous faire accéder à la liberté. Et pour ceux d'entre nous qui connaissons un petit peu les Écritures et la Bible, nous savons aussi que le peuple d'Israël, presque tout a commencé le jour où Dieu l'a fait sortir de l'esclavage où il était en Égypte pour lui donner une terre dans laquelle il allait pouvoir s'implanter, vivre et vivre heureux. Et une des choses qu'annonçaient les prophètes et que redoutait le peuple, c'était cette annonce un jour que, de nouveau, le peuple allait connaître une sorte d'esclavage et c'était l'exil sous les Babyloniens. Et c'est quelque chose qu'ils redoutaient, mais qui est arrivé, mais qui aussi a connu sa fin lorsque le Seigneur est venu. Donc ce thème de la liberté et de la libération, c'est quelque chose que Dieu a véritablement à cœur. Et j'aimerais tout de suite dire, le Dieu que nous avons prié et que nous chantons ce matin et que nous célébrons n'est pas un Dieu qui cherche simplement à s'asservir les hommes. Ce n'est pas un Dieu qui est tellement grand qui dit à toutes ses créatures, allez traîner à mes pieds et dites à quel point je suis grand et beau. Le Dieu de l'Écriture, le Dieu dont nous parlons, est un Dieu qui se dit, moi la chose que j'ai au fond de mon cœur et que je veux pour tous les hommes, c'est leur libération et leur liberté. Et si je reprends les textes ici, et si vous y pensiez quelques instants pour vous-même, ces textes qui sont en gras, la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés, proclamer une année de grâce. Il me semble que ce ne sont pas des mots et des expressions qui sont vieux, qui datent d'un autre temps, mais ce sont des mots qui ont encore une résonance et encore une réalité aujourd'hui. Et ce ne sont pas simplement des termes qui sont d'ordre politique ou physique. C'est vrai qu'on a beaucoup utilisé ce texte pour dire que Jésus était un révolutionnaire. Et donc c'est ce qui a fondé beaucoup aussi toute la théologie de la libération en Amérique latine. Mais j'aimerais que nous prenions simplement quelques instants, tout le monde, simplement de fermer vos yeux et de simplement penser à vous-même dans votre propre cœur. À quoi renvoient ces expressions ? Des choses qui vous tiennent à cœur, des choses que vous avez vécues dans votre propre vie, et où vous vous dites, il y a des choses qui m'en servent et dont j'aimerais bien me défaire. Je vous invite à prendre quelques instants en fermant les yeux et en pensant peut-être à ce qui, en vous, vous aimeriez être libéré. Pensez à vous-même et à des choses qui peut-être vous n'aimez pas en vous-même. Il y a peut-être des choses que vous n'aimez pas dans les autres. Il y a des circonstances peut-être qui vous gênent et dont vous aimeriez vous débarrasser. Et si je peux, pour ceux qui s'en sentent la liberté, de simplement prier et demander au Seigneur qu'il vous libère de ces choses-là. Et nous y reviendrons après. Mais la question qui se pose ce matin, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à Jésus ? Il n'est pas le premier et il n'est pas le dernier à dire « je viens pour libérer ». Le nombre de libérateurs que ce monde a connus, qu'ils soient d'ordre politique, religieux, psychologique, on en a compté beaucoup et on en compte encore beaucoup aujourd'hui. Ceux qui vous diront quel est le secret pour vraiment se libérer. Et c'est pour ça que Jésus y dit « si le Fils vous libère, vous serez véritablement libre. » Et c'est pour ça que Paul, il dit cette expression qui est un peu bizarre, mais c'est pour la liberté que Christ vous a libéré. Parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas de soi que quelqu'un puisse véritablement nous apporter la liberté à laquelle nous aspirons au fin fond de nous-mêmes. Excuse-moi. Prochain. Encore. Bien. Oui, ça va un peu plus vite que j'avais prévu, mais ça ne fait rien. Plusieurs choses que j'aimerais, en fait, sur lesquelles insister, me semble-t-il, sur comment Dieu, lui, envisage notre liberté. Et c'est là où, me semble-t-il, il y a des choses que nous pouvons remporter avec nous ce matin, parce que la liberté, beaucoup l'envisagent de façon très très différente. Et la première des choses, comme je vous l'ai dit, c'est que Dieu veut notre liberté. J'étais étonné en préparant ce message, en regardant un certain nombre de textes sur la liberté ou de citations, à quel point les uns et les autres disent « il faut se libérer soi-même ». Le secret de la vie, c'est de rentrer en soi et de trouver des moyens de se libérer de ce qui nous enchaîne. Comme si les circonstances extérieures n'étaient pas vraiment le plus important. Mais ici, ce qui est important à savoir, et ce que j'aimerais que vous remportiez avec vous, c'est que le Seigneur n'est pas un Dieu qui veut nous asservir. C'est au contraire un Dieu qui veut nous libérer. Et comme je l'ai dit au début, c'est souvent contraire à l'idée que l'on se fait de Dieu. Et ce grand slogan des années 68, « Ni Dieu ni maître », était tout simplement encore ce désir tout d'un coup de se dégager de ces autorités qui étaient oppressantes. Mais l'autorité de Dieu et sa position de Dieu n'est pas pour nous opprimer, mais que c'est dans sa volonté même de nous libérer. Et il y a beaucoup de textes dans le Nouveau Testament, là où il est parlé de ce qui nous attend dans l'avenir, et il est parlé à certains moments de la création qui, elle aussi, languit et elle attend, le monde entier attend le jour où elle sera libérée. Et c'est le projet de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous. Et nous avons toujours beaucoup de choses qui pèsent sur nos épaules et qui nous ramènent toujours à cette idée, il faut que je fasse ceci, il faut que je sois comme cela. Dieu, il va penser quoi? Dieu est plus grand, Dieu est un juge, Dieu est ceci. Et on a l'impression toujours que Dieu nous oppresse. Et pourtant, Jésus, il dit à l'ouverture de son ministère, au début de sa vie sur terre, il dit, c'est pour libérer que je suis venu. C'est pour libérer que je suis venu. La deuxième chose qui me semble importante, c'est qu'il y a une vraie et une fausse liberté. On pense souvent, a priori, que si seulement je pouvais me défaire d'un certain nombre de circonstances, si j'avais un peu plus d'argent dans mon compte en banque, si je vivais ailleurs, si je ne devais pas nécessairement travailler ou vivre avec ces personnes-là, je serais libre. Et pourtant, on se rend bien vite compte, et là c'est une sorte de platitude que je dis, mais parce que beaucoup de gens le disent, c'est que la liberté n'est pas simplement changer nos circonstances. La liberté, ce n'est pas simplement changer nos circonstances. Et beaucoup disent aussi que lorsqu'on se libère d'une chose, on devient esclave d'autre chose. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Vous êtes libéré de la pauvreté, mais vous devenez esclave de votre travail qui produit de l'argent et vous avez des richesses et vous avez toutes sortes de problèmes en vous disant « où est-ce que je vais investir? Qu'est-ce que je vais en faire ?» Et ça, c'est une des réalités. C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on change de circonstances, on se retrouve dans d'autres circonstances et on peut retrouver le même type d'oppression. Et donc ici, il est important de noter, c'est que la liberté, ce n'est pas simplement se défaire de tout et enfin, il n'y a plus rien qui me contraint et je suis tout seul. Rien autour de moi, rien ne me gêne. C'est ça la liberté. Et je crois que vous savez tous de vous-même que ce n'est pas vrai. La liberté n'est pas simplement se défaire de tout ce qui nous enchaîne. La liberté, c'est aussi une qualité de vie. La liberté, c'est aussi quelque chose qui est autant intérieur qu'extérieur. Et là, je reviens à cette expression « se libérer » qui n'est peut-être pas tout à fait aussi fausse que peut-être je le laissais entendre au début. Mais c'est que souvent, la liberté est quelque chose dans notre cœur. Comment nous voyons les choses ? Le poids que certaines circonstances ont dans notre vie. C'est ça aussi où doit se trouver la libération et la liberté dans notre cœur, dans notre tête. Le troisième point, c'est que notre liberté est en Dieu. Il y a ce petit verset là que j'ai lu dans Jean au chapitre 8. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Et là, c'est une autre dimension de ce qu'on trouve dans l'Écriture, c'est que Dieu n'est pas simplement notre libérateur, c'est dans notre relation avec lui que nous sommes libres. Il ne suffit pas, encore une fois, comme je le dis, de se défaire de tous ces obstacles dans notre vie. C'est que dans un sens, il faut rentrer dans une libération, dans une relation, pardon, avec Dieu. Et c'est là où nous trouvons la liberté. Et il y aurait plein de témoignages de l'Écriture, mais aussi de la part de chrétiens aujourd'hui qui disent « Moi, je vis des circonstances qui sont difficiles, mais parce que je vis dans ma relation avec Dieu, là, je trouve une liberté parce que je peux me détacher par rapport aux circonstances. Je peux trouver quelqu'un qui porte mes circonstances avec moi et j'ai confiance et foi dans quelqu'un qui va mener l'histoire à son terme et où toutes choses seront restaurées et rétablies. » Ainsi donc, il ne peut pas y avoir de liberté sans Dieu. Il ne peut pas y avoir de liberté sans notre relation à Dieu. Et Dieu dit, venez à moi, venez à moi. Encore une fois, pas pour nous asservir, mais parce que dans notre proximité avec lui, nous découvrons la liberté. Et là, j'aimerais souligner deux choses dont nous parle le Nouveau Testament, c'est que il nous est dit que lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous entrons dans cette relation avec lui, nous sommes plus simplement une créature, une parmi 7 milliards. Nous ne sommes pas simplement un petit habitant sur une planète qui est absolument insignifiante dans l'univers. C'est que nous rentrons dans cette présence et cette proximité avec Dieu où il est dit que Dieu nous appelle fils et filles. On ne peut pas être plus proche de Dieu que lorsqu'il nous appelle fils et filles. On ne peut pas être plus libre que lorsqu'on est fils et filles dans la maison de Dieu. Où Dieu il dit, entre, tout ce qui est à moi est à toi. C'est comme ça que parle la Bible de notre relation avec lui. Et puis une deuxième image nous vient aussi, vous savez, de tous ces rites religieux que les hommes ont pu avoir pendant un certain temps, où il fallait s'approcher de Dieu d'une certaine façon, il fallait se laver, s'habiller d'une certaine façon, faire certains gestes, prononcer certains mots, les faire d'une certaine façon. Dieu, il est dit, tout ça c'est fini maintenant. Ça a été pendant un certain moment, mais maintenant, moi, en toute liberté, chacun peut venir et s'adresser à Dieu. Prier, lui dire ce que nous avons sur le cœur, lui dire merci. Et Dieu, il dit, mais venez, venez. Ça, c'est le Dieu du Nouveau Testament, ça, c'est le Dieu de la Bible que nous adorons. C'est un Dieu qui ne met plus aucune entrave à cet accès que nous avons à lui et à cette relation que nous avons à lui. Donc, notre liberté est enracinée et elle naît de notre relation avec Dieu. Quatrième point. La Bible va plus loin encore et nous dit comment nous pouvons accéder à cette liberté. Et ici, il me semble qu'il y a des points qui sont importants. On passe à la prochaine diapositive. Le premier point, c'est qu'ici, il nous est dit qu'il nous faut absolument, si la liberté est une relation, il faut que cette relation soit rétablie. Si notre liberté s'enracine dans une relation de fils ou de fille avec son père et avec son frère Jésus-Christ, il faut que cette relation soit rétablie. Et Dieu, il nous dit, la rébellion et le péché de l'homme, c'est des choses qui l'ont complètement enfermé dans un monde qui est éloigné de Dieu. Et Dieu compare souvent le péché à un esclavage, en disant, mais il faut que tu te sortes de cela. Et je te demande de te repentir et je veux te pardonner, non pas pour t'humilier, mais au contraire, pour te faire sortir de cet état dans lequel tu es, où ton cœur est un cœur rebelle, où ton cœur est un cœur qui refuse la relation avec moi, où ton cœur est centré sur lui-même et non pas sur le fait qu'il peut donner et vivre avec les autres. Et Dieu dit, mais viens, moi je suis prêt à te pardonner. Mais accepte le fait et reconnais le fait que tu vis dans cette relation complètement tordue. C'est le point de départ. Il ne peut pas y avoir de vraie liberté si on ne reconnaît pas le problème dès le départ. Et là, j'aimerais à nouveau répéter à tous, lorsque Dieu nous demande de confesser nos péchés, de nous repentir et de nous pardonner, ce n'est pas une démarche d'humiliation, ce n'est pas une démarche d'un tyran. C'est la démarche de quelqu'un qui dit « Mais moi, je veux te sortir de la mouise dans laquelle tu es. Moi, je veux te redonner ta dignité. » C'est un Dieu qui tend la main et qui sort quelqu'un de la mouise dans laquelle il est. Et ça nous permet de rétablir notre relation avec le Seigneur sur laquelle tout le reste va se construire. La chose suivante, c'est que Dieu nous dit, lorsque tu te repens, lorsque je rétablis avec toi cette relation, une promesse que je te fais, c'est que je ne te laisse pas seul. Je ne vais pas te laisser seul au point où je vais envoyer mon Saint-Esprit pour vivre en toi. On ne peut pas plus proche. On ne peut pas plus proche de cette relation entre Dieu et nous. C'est que Dieu nous dit, mon esprit va vivre en toi. Et cet esprit qui va vivre en nous, ce n'est pas simplement cette petite étincelle qui nous dit que nous sommes un tout petit peu divins ou quelque chose qui nous dit que nous sommes quelqu'un de bien. Non, l'esprit vit en nous parce qu'il a une œuvre à laquelle il est appelé. Et cette œuvre à laquelle il est appelé, c'est de nous transformer de l'intérieur et de nous conduire et de nous instruire pour nous aider à trouver le chemin de la liberté. Et ça, c'est une promesse que Dieu fait, c'est que lorsque nous croyons en lui, lorsque nous recevons son pardon, Dieu il dit, moi, j'ai une œuvre dans laquelle je vais m'atteler tout de suite par mon Saint-Esprit en toi, je vais t'aider. Chers amis, ce n'est pas simplement un projet politique, ce n'est pas simplement de belles paroles. Lorsque Dieu dit, je vais te libérer, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il entre en nous pour dire, allons-y, mettons-nous au travail. Et par sa présence en nous, il nous change. Et cette présence fait beaucoup de choses. La première des choses, il nous a dit, c'est que la présence du Saint-Esprit nous aide à voir les choses différemment. L'Esprit nous aide à comprendre les choses différemment. Mais l'Esprit aussi nous conduit, nous est-il dit, dans la vérité. C'est-à-dire, il nous rappelle les paroles de Jésus en disant, tu te souviens là ce qui a été dit ? Pense un peu à ça et regarde un petit peu les choses différemment. Ou peut-être en fonction de ça, comporte-toi de façon différente. Ou peut-être, ce n'est pas tout à fait comme tu le pensais. Et l'Esprit est là, comme cette voix à l'intérieur de nous, qui nous conduit et qui nous aide. Mais c'est aussi la présence de Dieu qui nous fortifie, qui nous donne la force d'aller de l'avant et de ne pas nous laisser à nouveau enchaîner par des choses qui peuvent nous enchaîner. Et c'est une véritable présence, une véritable promesse de la part de Dieu dans notre cœur. Le troisième point qui nous est donné, et là je reviens à ce que je disais juste là, c'est que Jésus il dit, si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Mais auparavant, il a dit aux pharisiens, il dit, c'est la vérité qui vous libérera. Et ici, Dieu il nous invite à dire, à l'écouter. La liberté, ce n'est pas simplement dire « je pense ce que je veux, je fais ce que je veux » et tout ce qui compte, c'est que personne ne me dit ce que j'ai à faire ou à penser. Ce n'est pas la vraie liberté. La vraie liberté, c'est lorsque quelqu'un nous conduit pour sortir de notre esclavage, pour nous montrer le chemin, pour nous aider à comprendre. Et ici, il nous est dit que c'est la vérité, et la vérité, c'est la parole de Dieu. Cette parole que quelquefois nous disons, écrite dans un langage, elle a été écrite il y a longtemps, il y a des mots que je ne comprends pas, etc. Et, tout. Et on se dit, si seulement Dieu il prenait des raccourcis, puis il fait tout comme je le veux maintenant. Et ici, il est dit, non. Regarde un petit peu les Écritures, lis-les, comprends-les, sois instruit, C'est cette vérité qui va t'affranchir. La parole que Dieu nous a donnée aujourd'hui, on ne la lit pas de simplement de façon magique, comme si c'était un acte qu'il fallait faire tous les jours pour accumuler des bons points. Nous lisons encore l'Écriture aujourd'hui parce que c'est comme une nourriture, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Et c'est quelque chose qui aide à nous épanouir et à connaître cette véritable liberté. Et c'est pour ça que nous avons la parole. Et c'est pour ça que Jésus dit, lorsque le Saint-Esprit viendra et vivra en vous, il va vous conduire dans toutes les choses que moi je vous ai enseignées. Chers amis, je vous encourage à continuer à lire l'Écriture, non pas de façon mécanique ni quoi que ce soit, mais à vous laisser imprégner par elle, à laisser votre esprit être changé, transformé par un autre point de vue qui est le point de vue de l'Écriture. Le quatrième point, c'est que ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout s'appuie sur une relation que nous avons avec Dieu, mais une relation qui s'épanouit, qui épanouit chacun d'entre nous. Notre relation avec Dieu est quelque chose de vivant. Nous ne sommes pas simplement repentis un moment pour dire « Tac, j'ai payé mon amende, maintenant c'est bon, qu'il me laisse tranquille. » Non, lorsque nous avons réglé les choses, nous sommes entrés dans une relation. Et là, le Seigneur, il dit, tu sais quoi, moi, ma relation avec toi, c'est quelque chose que je voudrais être vivant tous les jours. Et je voudrais quelque chose qui nous fasse du bien l'un et l'autre. Et là, autant les relations peuvent nous faire du mal, autant nous savons tous que des relations nous font du bien aussi, et que nous sommes au mieux de nous-mêmes lorsque nous sommes en relation avec les autres. Nous sommes au mieux de nous-mêmes lorsque nous sommes en relation avec les autres. Dieu nous a créés pour être en relation avec lui, mais aussi avec les autres êtres humains. Quand Sartre disait « l'enfer, c'est les autres », il devait être très mal ce jour-là. Et je suis sûr que d'autres jours, il a dû se dire quand même ma copine Simone de Beauvoir, c'est quand même quelqu'un qui me fait du bien. Je suis quand même bien avec elle. Et je m'épanouis. Et c'est la même chose avec Dieu. Et c'est la chose que Dieu nous offre, c'est d'être en relation avec lui et de vivre une relation au quotidien avec lui. Il est suffisamment grand et tout-puissant pour être en relation avec chacun d'entre nous. Et c'est son désir. Et la liberté se trouve au fur et à mesure que nous entretenons et que nous cultivons et que nous approfondissons cette relation avec lui. Et quand je dis cela, ce n'est pas simplement une relation qui est toujours « il est beau, il est bon, c'est bien, tout va bien », mais c'est aussi une relation où on a la liberté de dire ce qui va mal, de part et d'autre. Dieu se gardera toujours la liberté de nous dire « tu sais, il y a peut-être ces petites choses-là qu'il faudrait qu'on revoie ensemble ». Et puis Dieu, il nous invite aussi dans l'Épître aux Philippiens, il dit « mais apportez tout ce que vous avez sur le cœur, mais tout ce que vous avez sur le cœur, tout ». Parce que moi, je veux en parler avec vous. Et je veux qu'on avance avec ça. Je veux qu'on travaille et qu'on aille de l'avant. Notre liberté, chers amis, et ça, c'est la promesse de Dieu, et la grandeur que nous avons chantée ce matin, c'est qu'il peut et qu'il veut avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous, quelles que soient nos capacités, quel que soit notre arrière-plan, quoi que nous ayons fait. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et c'est là-dedans que nous allons nous épanouir et que nous serons véritablement libres. Et le dernier point, là-dedans, c'est que lorsque Dieu nous libère, il va choisir son temps pour le faire. Il y a certaines choses où nous allons prier le Seigneur et il va, c'est vrai, dire « tu sais quoi, c'est vrai, je vais changer les circonstances. Et parce que tu me le demandes, je vais le faire. » Et il nous arrive parfois de prier et dans l'espace-temps, nous voyons que le Seigneur a changé les circonstances et nous a libérés de ces choses-là. Et nous avons ici des dizaines de témoignages que nous pourrions tous apporter en disant, nous vivions dans certaines circonstances et par la prière, nous avons vu ces circonstances changer et nous ne vivons plus dans ces circonstances. Ça, c'est une promesse que le Seigneur nous fait aussi. Mais le Seigneur se réserve non seulement le droit, mais c'est tout simplement parce que c'est comme ça que ça fonctionne aussi, c'est que quelquefois la libération et la liberté n'est pas quelque chose qui arrive comme ça, mais ce sont des choses que Dieu travaille en nous parce que c'est un processus par lequel nous devons arriver à cela. Alors on se demande pourquoi, mais c'est comme ça que le Seigneur a créé le monde. Nous ne sommes pas nés adultes, nous sommes nés enfants. Et nous devenons adultes. Toutes les choses ont des processus dans la façon dont Dieu a créé les choses. Et dans son processus de libération, il arrive que tout simplement ces choses-là prennent du temps. Ou ce n'est pas qu'elles prennent du temps, mais Dieu travaille avec le temps et nos expériences pour nous faire aboutir à cette libération. Et il y a probablement des choses de vous-même que vous avez vécues, ça a pris un certain temps, ou alors c'est seulement un certain moment dans votre vie où vous vous dites « J'ai compris, je peux m'en défaire. » Et ce n'est pas que Dieu est trop petit. Ce n'est pas que Dieu, il n'a pas voulu. C'est que Dieu maîtrise tout cela et il dit, tu sais quoi, toute ta vie, à chaque instant, quoi que tu vives, moi je suis avec toi juste là. Et tu sais quoi, on va travailler tout ça ensemble. Et on va y arriver. Ce qui fait que chaque jour que nous vivons est un jour où Dieu travaille en nous. Où Dieu peut nous façonner. Et où nos circonstances et nos expériences nous aident à trouver cette véritable liberté. Mais la troisième chose aussi que Dieu nous dit, c'est que, tu sais quoi, à l'heure actuelle, l'état dans lequel le monde se trouve, il y a des choses que je ne vais pas faire ou que je ne ferai pas encore maintenant. Alors, nous aimerions tous être libérés de l'idée de la mort. On aimerait bien pouvoir échapper à la mort, pour prendre le cas extrême. Mais Dieu, il nous dit, tu sais, c'est pas maintenant que je vais résoudre ça. Je vais le résoudre plus tard. Ça fait partie de mon projet, mais dans une phase ultérieure. Mais Dieu ne nous laisse pas simplement en me disant, « Ouais, d'accord, c'est plus tard, mais enfin, entre-temps, c'est pas facile. » Et c'est là où Dieu dit, « Je mets dans ton cœur une espérance. » Et là, je reviens à cette place et cette œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur, c'est que nous qui avons cheminé avec le Seigneur pendant un certain temps, nous savons, et en particulier lorsque les circonstances ne sont pas faciles, à quel point l'espérance que nous avons, ce n'est pas simplement une échappatoire ou une méthode couée pour nous faire croire que les choses sont meilleures qu'elles ne le sont, mais c'est tout simplement de dire, ça ce n'est pas le dernier mot, et le dernier mot c'est Dieu qui l'aura. Et Dieu, il dit, je mets dans ton cœur une espérance. Et dans le Nouveau Testament, la foi et l'espérance, ce sont deux choses qui sont, ce sont deux sœurs jumelles. Elles sont toujours présentes dans le cœur de l'homme. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et l'idée de l'espérance dépasse ce que Marx, lui, disait que la religion, c'est l'opium du peuple. C'est-à-dire, je vous fais croire des choses pour vous endormir, comme ça, au moins, vous ne ferez rien. Ce n'est pas vrai. Dieu, il dit, je mets dans ton cœur une espérance, c'est-à-dire que tu continues à travailler, à œuvrer et à porter tes yeux sur le jour où toutes ces choses-là seront restaurées et rétablies. Parce que ce jour viendra. Mais entre-temps, parce que nous avons notre relation l'un avec l'autre, tu peux tenir ferme. Tu peux tenir ferme. Et il y a beaucoup d'histoires de personnes qui ont vécu dans des circonstances extrêmement difficiles et qui pourtant avaient l'air d'être libres. Nous avons tous lu des histoires de prisonniers de guerre, de prisonniers de toutes sortes de choses, où des gens de la pauvreté, et où des gens disaient, mais vous savez, moi, je suis quand même libre. Je suis libre en raison de mon espérance, je suis libre en raison de Dieu dans mon cœur. Et ces gens étaient plus libres que les gens qui n'étaient pas prisonniers. Mes chers amis, ce matin, j'aimerais que, comme nous avons chanté la grandeur de notre Dieu, nous puissions aussi être émerveillés, émerveillés par la détermination de Dieu à vouloir nous libérer des choses qui nous pèsent et qui nous font du mal. Et que pour ça, ce n'est pas simplement de belles paroles ou un projet que Jésus a dit en disant « Moi, je suis venu faire la révolution. » Puis en fait, il est parti, puis après, rien n'est arrivé. Mais il dit « C'est comme ça que moi, je fais la révolution. » C'est comme ça que moi je fais la révolution. Et cette révolution est d'abord et avant tout entre toi et moi. Elle est d'abord et avant tout une véritable relation et une véritable vie qui est en toi. Mais tout ce que j'ai mis en place, je l'ai mis en place afin que tu puisses connaître non seulement la libération à un moment et retomber dans un autre esclavage, mais connaître une libération qui est durable et pérenne. Prochain écran. Je vous invite à prier quelques instants, mais aussi à prier pour vous-même que Dieu prenne ces choses qui peut-être vous tiennent encore et que vous lui demandiez en toute sincérité et en toute liberté qu'il vienne et vous délivre de ces choses-là, sachant qu'il prendra peut-être son temps, mais que lorsqu'il enclenchera quelque chose dans notre vie, il rendra cette œuvre absolument parfaite, il nous est dit. Mais de nous souvenir aussi, pour ceux d'entre nous qui n'aurions peut-être pas encore fait cette démarche, c'est que le point de départ de tout cela, c'est de reconnaître que notre relation avec le Seigneur n'est peut-être pas encore tout à fait réglée, que nous ne savons pas exactement où nous nous trouvons dans cette relation. Et que nous aimerions dire, Seigneur, je voudrais que toi tu rétablisses cette relation. Que tu m'aides à être de nouveau dans une relation qui est juste avec toi. Que la rébellion qu'il y a dans mon cœur et ce désir de vouloir être autonome et indépendant de toi, tu m'aides à le surmonter, que tu m'aides à comprendre que je n'ai plus à lutter contre toi pour être libre, mais que j'ai au contraire plutôt intérêt à me rapprocher de toi et à tenir ta main. Et là, le Seigneur, il dira, tu sais quoi, je mets de côté. Je mets de côté ce qui était entre toi et moi. Je le mets de côté parce que le Christ l'a porté. Parce que mon Fils est mort à ta place. Et en raison de cela, toi et moi, nous pouvons être à nouveau des amis. Moi, je peux être ton père. Toi, tu peux être mon enfant. Je vous invite à quelques instants de silence. Et notre Dieu, nous avons chanté ce matin à quel point tu étais grand et merveilleux. Mais Seigneur, nous sommes encore émerveillés de l'amour, de la détermination de ton projet envers nous, Seigneur, et de ta volonté de nous voir vivre en totale liberté. Seigneur, merci aussi parce que tu as entrepris de nous libérer. Et que tu as envoyé ton Fils, Seigneur, déjà pour ôter le péché du monde, pour ôter, Seigneur, notre culpabilité, mais aussi, Seigneur, pour être le premier d'entre nous à connaître entièrement cette liberté, cette nouveauté de vie. Seigneur, nous voulons aussi te bénir parce que dans ta parole, nous avons trouvé ce matin encore comment tu veux nous libérer, comment tu veux bâtir et consolider cette liberté en nous. Et Seigneur, nous te bénissons ce matin aussi parce que tu as promis de nous envoyer ton esprit et parce que ton esprit vit en nous. Il lui-même atteste, Seigneur, que nous sommes tes enfants, mais lui-même aussi nous conduit et nous instruit. Seigneur, nous voulons te remercier encore ce matin pour ta parole. Et même si par moments elle est un peu dense, même si par moments il y a des mots que nous ne comprenons pas toujours, nous savons qu'en elle nous pouvons plonger nos regards et trouver des choses qui nous aident à vivre chaque jour et à comprendre quel était ton projet pour les hommes. Seigneur, nous voulons te remercier aussi pour cette espérance que tu mets dans notre cœur. Parce que tu ne nous as pas donné une parole simplement pour nous endormir et nous faire accepter toute chose, mais tu nous as donné une espérance, Seigneur, qui nous tire de l'avant, qui nous donne une volonté, Seigneur, de grandir. Une volonté d'approfondir notre relation avec toi. Une volonté, Seigneur, de résoudre les problèmes. Parce que ça, c'est l'œuvre, Seigneur, que toi, tu as entreprise et que tu mèneras, nous en sommes convaincus, à son terme. Et Seigneur, par-dessus tout, nous aimerions te dire un grand merci parce que nous sommes tes enfants. Seigneur, nous ne pouvons pas de nous-mêmes imaginer que toi, le Dieu de l'univers, tu aies ouvert les bras, que tu nous appelles plus simplement petites créatures ou serviteurs, ou même amis, mais que tu nous appelles frères et sœurs, et que nous sommes tes enfants. Seigneur, nous sommes émerveillés. Ce matin, nous aimerions te dire merci. Et je prie, Seigneur, que ton esprit puisse attester ces choses dans le cœur de chacun d'entre nous ce matin et que nous puissions repartir attirés par toi, Seigneur, attirés par cette lumière et cette petite flamme qui nous appelle, Seigneur, à de grandes choses dans notre vie. Nous te glorifions, nous te bénissons. Au nom de Jésus, amen.
Merci pour ce qui nous a été partagé ce matin. Avant d'arriver aux annonces, avant de vous partager les annonces, j'invite Floriane à nous partager, à nous présenter un petit peu ce qu'elle a vécu ces derniers mois, puis peut-être aussi à nous présenter un petit peu, en deux mots, ce qu'elle vivra les mois prochains.
Coucou. J'espère que vous m'avez bien vu parce que je suis revenue, mais je repars cet après-midi. C'est pas parce que je vous aime pas. Au contraire, ça me fait vraiment plaisir à chaque fois que je reviens de tous vous voir. Je vous aime énormément et enfin, ouais, ça me fait toujours chaud au cœur. Donc je vais repartir pour 6 mois jusqu'à fin août. Je repars à Lyon cette fois, donc c'est pas très loin. On verra si je rentre ou pas. je vais partir, on vous montrera une petite vidéo après, comme ça vous verrez, vous aurez une petite idée, parce que les gens ils me disent toujours « Mais c'est quoi exactement que tu vas faire ?» Donc c'est une école d'art de rue, et c'est en fait comment pouvoir évangéliser, enfin partager l'évangile à travers l'art, et j'ai choisi l'art visuel. Donc c'est vraiment le Seigneur qui m'a dirigée là-bas, et puis c'est aussi un rêve qui touche à sa réalité, donc je me réjouis. Je voulais vous remercier pour toutes vos prières, vos petits mots, vos messages, vos cartes, ça m'a toujours fait super plaisir. Je suis un peu naze pour répondre et garder un contact ou envoyer des lettres de nouvelles, mais vous me pardonnez, j'espère. on vous montre une petite vidéo, comme ça vous avez une idée, et puis merci beaucoup.
Voilà, merci Floriane, que Dieu t'accompagne dans cette nouvelle formation qui commence. Je partage avec vous les annonces. Donc après le culte, on aura un apéritif, donc profitons de ce moment pour échanger, pour partager entre nous. L'apéritif aura lieu en bas, ici, donc, ok, merci. Sinon, les annonces de la semaine, on s'est zippé un petit peu cette semaine, donc on les a pas au vidéoprojecteur, donc je vous les fais verbalement. Mardi, à 20h, on a la commission culte et croissance spirituelle, et puis mardi, à 20h30, c'est le groupe des jeunes adultes qui se retrouve aussi. Samedi, à 10h45, cross-training, comme tous les samedis. N'hésitez pas à y participer, je trouve que c'est intéressant. Moi, j'y participe, c'était la deuxième fois. La première fois, c'était un petit peu, les courbatures. Puis, la deuxième fois, ça va mieux. Samedi après-midi, il y a plein de trucs. Déjà, à 17h, donc ici, on a la rencontre d'explosion de louanges. Donc, c'est important d'y participer. C'est un moment précieux, le fait de pouvoir louer Dieu ensemble. Et puis, samedi après-midi, à Saint-Genis, il y a un cours biblique, un cours biblique sur le sujet « Nourrir notre foi ». Alors, j'ai mis le flyer derrière le paravent de la sono. C'est aussi à 17h, et puis ensuite à 20h30, et puis le culte chez eux aussi le dimanche matin. Samedi soir, le groupe de jeunes qui se retrouve. Dimanche prochain, on a le thé café à 9h30. C'est bien d'y participer, ça permet aussi d'échanger, de fortifier nos liens entre nous. À 10h30, le culte, ici. Et puis, c'est Pierre Klipfel qui nous apportera le message. Et Pierre Klipfel est le directeur de l'IBG, donc de l'Institut biblique de Genève. Et on a reçu cette semaine des nouvelles de l'IBG que j'ai mis aussi derrière le paravent. Donc vous pouvez les lire, c'est intéressant. C'est vrai que l'IBG est relativement proche géographiquement, donc on s'est dit pourquoi pas créer des liens, voilà. Donc on vous invite à réserver ce moment et le préparer aussi, donc le culte avec Pierre Klipfel. La semaine d'après, le mardi 22, il y aura l'étude biblique des aînés. Et puis je vous rappelle aussi le mardi encore après, donc dans deux semaines, l'Assemblée générale ordinaire des deux associations qui aura lieu ici. Je laisse maintenant la place à Rebecca pour des nouvelles concernant le club d'enfants.
Alors voilà, le club d'enfants se met déjà en route. Et j'aimerais vraiment remercier le Seigneur pour toute la jeunesse qui s'est inscrite d'une rapidité. Au mois de juin, souvent, c'est « on manque d'aide-moniteur, s'il vous plaît, s'il vous plaît ». Mais là, c'est « si vous voulez une place, il va falloir vous inscrire ». D'habitude, on accueille 80 enfants. Est-ce que le Seigneur nous montre qu'il veut nous en envoyer plus ? Mais pour les aides-moniteurs, il nous en manque que 2 si on fait 10 équipes cette année. Donc voilà, sinon on trouvera d'autres solutions pour vous donner une place. Pour les moniteurs aussi, on a déjà 6 moniteurs, donc il y a encore 4 places. Mais voilà, peut-être Dieu nous montre qu'il veut nous envoyer plus d'enfants, donc il y aura de la place pour tout le monde. Mais merci à vous les jeunes qui vous êtes levés et inscrits si rapidement, ça nous encourage. Parmi ces jeunes, il y a Jérémy Porter qui s'est inscrit et qui nous a écrit hier soir. Il a été aussi encouragé parce qu'il va se faire baptiser le dimanche 3 avril. Et il invite toute l'équipe du club. Alors, ça sera à partir de 14h, ils font un repas canadien. Alors, merci d'apporter quelque chose, parce que si vous venez les 60 bénévoles sans rien, ça va être peut-être compliqué. Mais vous êtes tous invités, donc à 14h à l'église de Crosswood, à Ferney. Et ensuite, il y aura les baptêmes. Et Jérémy a vraiment à cœur que vous soyez là, donc j'ai trouvé chouette. C'est vrai qu'il fait partie de notre équipe déjà depuis plusieurs années. Donc, ça serait chouette qu'on puisse aller l'entourer. Les réunions vont commencer, donc on va commencer par l'enseignement, et c'est cette semaine, mercredi à 20h30 chez nous. Donc toutes les personnes qui seraient intéressées à s'engager concernant l'enseignement, vous êtes les bienvenues, donc mercredi soir à 20h30 chez nous. Et puis les plus âgés, pour les bricolages, il faut vous inscrire parce qu'on va aussi mettre des réunions en route. Merci. Ah, si t'étais là, Florène, tu serais la bienvenue, hein.
Des nouvelles de Sandy. Sandy, donc, je ne sais pas si vous avez pu suivre les nouvelles sur le site, va mieux. Donc, il a eu un IRM qui a montré en fait que les douleurs qu'il avait au dos étaient dues à des vertèbres qui étaient déjà abîmées dans le passé. Ce qui est bien parce qu'en fait, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas eu de nouvelles lésions. Et donc, on est content pour ça. Sandy sort ce matin, ça s'est avancé un petit peu, il sort ce matin, je pense qu'il va passer pour l'apéro tout à l'heure. il commence fort, donc voilà, mais continuons quand même de prier pour lui, parce que s'il peut sortir ce matin, c'est parce qu'il est encore sous médicament contre la douleur, et il aura aussi des soins et des séances pour que tout se remette correctement en place. Ben Charlie est parmi nous ce matin, on veut continuer de penser à toi Charlie. C'est important au niveau du suivi que tout rentre bien dans l'ordre, que Dieu te garde, te bénisse, te garde aussi dans la paix. Comme chaque semaine, on vous invite de prier pour un pays dans lequel il y a de la persécution, et cette semaine on vous invite à prier pour le Qatar, le pays du Qatar, un tout petit pays, mais dans lequel il n'est pas facile d'être chrétien et de vivre une vie de chrétien. Sinon, je vous invite à vous lever. Je lis encore avec vous deux versets dans Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.